Et bonjour à toutes et tous et bienvenue au programme jusqu'à 10h, un invité qui va bousculer nos certitudes sur la transition écologique, sociale et sociétale. Il promet à qui veut l'entendre qu'il ne veut effrayer personne. Après tout, ce n'est pas parce qu'il prédit que notre civilisation va s'effondrer qu'il faudrait s'inquiéter. Bon, un peu quand même, mais juste ce qu'il faut, de quoi préparer les esprits, se mettre à l'action parce que selon lui, on va dans le mur et c'est inexorable. Donc je vous préviens, un peu comme un avertissement à l'auditoire, un truc un peu officiel, vous voyez, le chercheur qui est à mon micro aujourd'hui secoue, perturbe, dérange et fascine. Bref, il ne va pas vous laisser indifférent.
Mesdames et messieurs, vous êtes sur la station WNYG. La température était de 52 degrés ce matin à 11h. Les prévisions météorologiques pour demain sont les suivantes. Il fera chaud, probablement plus chaud qu'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, demain vous pourrez faire frire vos œufs sur l'asphalte des trottoirs et réchauffer votre soupe dans l'océan si jamais l'envie vous en prenait. Surtout pas de panique.
Et d'après vous donc, on n'est plus du tout dans la quatrième dimension, c'est inéluctable et les signaux sont de moins en moins faibles. Il faut faire une croix sur notre vie d'aujourd'hui et essayer d'imaginer ce que pourrait être demain. Et ce n'est pas forcément si grave que ça. Et oui, cela pourrait aussi être le début d'un nouveau monde où l'être prendrait enfin le pas sur l'avoir. Et pas d'excuses ce matin, hein. Restez à l'écoute car mon invité est en pleine diète médiatique et qu'il fait une exception en passant une heure avec nous. Et puis qu'il y a urgence, ne prenons pas plus de temps que nécessaire, parlons collapsologie, collapsosophie ou même collapsopraxie, et accrochez-vous car il est bien possible qu'à 10h, tout à l'heure, rien ne sera plus jamais comme avant.
France Inter. Des idées pour demain. Valère Correa.
Bonjour Pablo Servigne.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes chercheur interdépendant, ingénieur agronome, docteur en biologie, spécialisé sur le thème de l'effondrement. J'ai appris que vous aviez écrit une thèse sur les fourmis, c'est un peu original. Ça vous a apporté quoi de travailler plusieurs années sur ces petites bêtes ?
Ah, moi ça m'a épanoui, j'ai adoré. C'était un rêve d'adolescent et je voulais, quand je disais à mes parents, je voulais, qu'est-ce que tu veux faire ? Bah, je disais, je veux être myrmécologue. Quoi ? Comme quand on dit poète ou dessinateur de BD et il nous regarde avec un air bizarre. En fait, voilà, c'est spécialiste des fourmis. Et ça m'a apporté une connaissance profonde, enfin, de l'écologie, de l'évolution, de la biologie, des sociétés animales.
Parce qu'elles sont organisées, ces fourmis, parce que vous avez découvert là des communautés surprenantes, sans doute, intelligentes presque.
Ah ben pas presque, complètement, ouais. C'est une autre intelligence que les nôtres. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a plein d'espèces, plein d'animaux différents, même des plantes. On découvre l'intelligence des plantes et les bactéries et les champignons, et c'est magnifique. Donc c'était une porte d'entrée pour découvrir ce foisonnement avec émerveillement. Le monde vivant, c'est quand même quelque chose d'incroyable et ça inspire.
Vous avez participé au développement en France du concept d'effondrement, clairement. Vous savez que vous faites un peu peur quand même avec cette histoire.
Ouais, malheureusement, c'est pas mon but, hein, de faire peur. C'est vraiment d'informer le plus calmement possible. Mais voilà, quand le feu est là, il y a un moment, faut prévenir les voisins qu'il y a un incendie et l'incendie, ça fait peur. Mais il y a une manière, c'est vrai, de l'annoncer.
La collapsologie, c'est la science de l'effondrement. On va en parler. Moi, j'aimerais bien aussi savoir comment vous vivez finalement au quotidien, dans votre vie à vous de tous les jours, avec cette idée d'effondrement. Comment vous mettez en cohérence l'un et l'autre, mais on va commencer par le commencement. Pablo Servigne, étudier l'hypothèse d'un effondrement de notre civilisation, ça vous a pris comment ?
En fait, après la thèse en 2008, je suis sorti du monde académique, j'ai fait de l'éducation populaire. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de transmettre tout ce que j'avais découvert d'incroyable dans les sciences, en écologie, enfin les sciences du système Terre. Et elles vont pas bien, hein. Je vous le dis tout de suite, la planète, la biosphère, les cultures humaines, les animaux. Il y a beaucoup de signaux d'alarme, donc je voulais faire une synthèse de ça pour qu'on puisse être le plus lucide possible sur notre époque et prendre les bons choix politiques, sociaux, etc. Donc, comme je suis agronome, donc j'ai bossé un moment sur l'agriculture post-pétrole, puisque des gens disent à un moment il y aura plus de pétrole. Je me suis gratté la tête, je me suis dit, mais l'agriculture sans pétrole? Et comment on fera sans tracteur, sans pesticides, sans gaz naturel pour faire les engrais, etc. Voilà, et c'est la curiosité et le goût de la transmission qui m'a amené là. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur le fait que nos systèmes climatiques, biodiversité, les écosystèmes et nos systèmes sociaux sont très mal en point au risque Donc il y a déjà eu des effondrements, il y a déjà eu des atteintes graves, les pollutions, la disparition des oiseaux, le changement climatique, etc. C'est vraiment grave. Vous disiez tout à l'heure que c'est pas grave, mais c'est grave, mais on fait avec.
Je sais, c'est pas si grave.
Mais c'est bon, pas si grave. Bon, on peut le prendre de manière légère, mais c'est quand même assez sérieux. Et ça amène la possibilité, et là il y a une incertitude radicale, possibilité que tout s'emballe dans une, ce que les scientifiques appellent un choc systémique global, un effondrement systémique global, et avec voilà réduction de la population, avec des choses pas très chouettes. Et il y a déjà des peuples, des cultures, des pays, des zones, des régions qui le vivent, mais là ça serait à plus grande échelle.
On va dérouler justement cette thèse de la collapsologie dans quelques minutes, mais avant j'aimerais bien que vous me disiez comment finalement votre statut de scientifique et les connaissances que vous aviez finalement lorsque vous avez découvert ces hypothèses, comment est-ce qu'elles ont nourri cela dans votre pensée? Parce que on voit bien qu'il y a la volonté de poser des bases scientifiques dans cette thèse-là.
Ouais, c'est ma déformation. Voilà, je suis scientifique, j'adore la science et comprendre, c'est vraiment ce qui m'anime. Faire comprendre aussi, c'est, je le redis, mais c'est, je suis rentré par la raison dans toutes ces catastrophes. Et le problème, c'est que le sujet m'a dépassé. Le sujet des catastrophes globales, d'un possible effondrement, des guerres, des maladies, des famines, c'est passionnant. La science étudie ça. Les sciences, parce qu'il y a vraiment toutes les disciplines, c'est, voilà. Et ça me dépasse dans le sens où les gens sont pris par des émotions incroyables, ça change leur vie, leur manière de voir le monde, le futur, leurs enfants. Et dans les conférences où j'étais le plus rationnel, avec des PowerPoints, avec des courbes, avec, voilà, j'essayais d'informer au maximum. En fait, ça détruisait les gens, ils sortaient blêmes. Et moi aussi, je souffrais. Je souffrais de lire toutes ces publications scientifiques. Donc, la science, juste la science, la raison, ne suffit pas à traiter cette question. Donc
avec
on a
quoi
dû
vous
aller
l'avez
plus loin.
Bouclé. Alors voilà, c'est ça.
Voilà, on a dû aller plus loin, on a dû s'ouvrir. Je dis on, c'est avec Raphaël Stevens, le co-auteur de Comment tout peut s'effondrer, un ami qui habite à Bruxelles, et Gauthier Chapelle avec qui j'ai coécrit Une autre fin du monde est possible. Et puis aussi l'entraide, et en fait, on est allé vers des chemins qui nous ont on a découvert plein de choses. La science nous a au début guidés. Par exemple, je prends la question des émotions. Tout ça, ça fait sortir de la colère, de la rage, de la tristesse, du désespoir, tout ça. Mais on est désemparés, c'est tellement énorme. Et la science a étudié les émotions. Donc nous, en tant que scientifiques, on allait voir, décortiquer ce que les scientifiques disaient là-dessus, sur la colère et tout ça, sur le désespoir, il y a plein d'études là-dessus. Et en fait, on devait le vivre aussi. Donc on a regardé en nous, qu'est-ce que dit notre cœur. Voilà, on n'est pas que dans la tête non plus. Et on a fait des ateliers, on a fait plein de choses en pratique sur les émotions. Je prends aussi le thème de l'imaginaire très rapidement. Mais dire qu'il y a un possible effondrement qui arrive, ça renvoie tout de suite au film post-apocalyptique 2012, le truc sur le climat
sûr,
Hollywood, quoi, qui a déployé cet imaginaire de manière... qui a bien imprégné notre société, c'est la fin du monde et on hurle tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que la question de l'imaginaire était importante. C'est-à-dire que on pouvait discuter avec le public des films comme Mad Max, des films comme Le jour d'après, etc. Par contre, le rapport du GIEC, on le présente, on peut pas le discuter. Le public, il est passif,
donc
il est dans l'impuissance.
Le récit amène aussi finalement une forme de perspective.
On a besoin du récit.
On a besoin de récit, on a aussi besoin peut-être d'être acteur. Et d'ailleurs, on le voit, on est quand même dans une période où même si ça va pas assez loin, assez fort, et qu'on ne parvient toujours pas à renverser une vapeur s'il était encore temps, il y a quand même des gens qui s'engagent et qui essayent de faire leur transition, qui essayent de se responsabiliser et d'agir. Quand on fait sa transition, c'est pas la première fois, mais c'est souvent une dernière fois qu'on doit vivre. Vous vous souvenez, vous, d'une dernière fois que vous avez vécu pour justement faire une transition?
Je me souviens quand j'ai rencontré Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle à Bruxelles qui nous avaient présenté. On est allé au resto à deux avec Raphaël et on a commandé un gros hamburger avec des frites et une bonne bière. On s'est dit c'est notre dernier repas, on va en profiter à fond et on vit tout comme une dernière fois pleinement les choses. Et la dernière fois aussi c'est que j'ai pris l'avion il y a 10 ans.
Ça c'est fini l'avion?
Ouais, depuis une dizaine d'années. Voilà, et c'est venu très facilement, très graduellement, sans souffrance.
Il y a plein de gens qui font leur dernière fois.
Ouais.
Là, par exemple, on va aller à la rencontre d'un chef de projet, un ancien chef de projet. Il a vécu lui aussi une grosse dernière fois. Il a laissé son appart parisien en 2016 et il a décidé de changer de vie. Bonjour Léa Minot.
Bonjour Valère. Cette semaine, il faut traverser une forêt et emprunter un chemin à peine dessiné pour rencontrer Jean-Luc, qui vit en complète autonomie énergétique après avoir connu la vie parisienne. Et il nous raconte donc la dernière fois qu'il a vécu dans un appartement en ville.
Mars.
Voilà, donc ça, c'est un petit chemin que j'ai fabriqué, en gros, à travers la forêt.
Ah oui.
Et par lequel on va arriver à l'arrière du chalet, voilà.
Je m'appelle Jean-Luc, et la dernière fois que j'ai vécu dans un appartement, c'était en 2016. Alors, je me suis installé à Paris la dernière fois en 2013, dans mon avant-dernier poste, directeur de projet pour l'Institut National d'Histoire de l'Art.
Là, on est en pleine forêt. Le chalet qui est sur une sorte de plateforme, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
J'habitais dans un appartement rue du Faubourg du Temple, comme on peut en trouver à Paris, 3 pièces, 60 mètres carrés. J'allais au travail comme tout le monde, par l'intermédiaire des transports en commun. Sans autre comparatif, oui, ça me convenait.
On peut faire le tour, alors ?
Oui, bien sûr, oui. Puis, il s'est passé une chose. J'étais vraiment perméable à tout ce qui gravitait autour de moi. L'humeur des gens, le temps qu'il faisait, les bruits de la ville.
Bah, tout autour, il y a les oiseaux, quoi, en permanence.
Toute cette agitation incessante, en fait, qui, personnellement, ne m'accordait aucun répit. Et, pour le coup, aucun recul sur moi-même. J'étais, basiquement, assez agressif, impatient et distancié par rapport aux gens. J'aurais voulu me comporter différemment dans des situations particulières et je n'y arrivais pas. Je devais être en 2014 à peu près. J'ai commencé à me rendre compte que si je ne changeais pas d'environnement, je ne pourrais pas me permettre d'avoir accès à un changement personnel.
Donc au milieu de la forêt, il y a une trouée et le soleil qui vient pile poil sur le chalet.
Alors ce déclic est arrivé un peu par hasard, c'est-à-dire qu'une nuit, alors que j'avais du mal à dormir, je me suis fait la réflexion suivante. Si je peux trouver un petit morceau de forêt dans lequel je pourrais aller de temps en temps le week-end, peut-être que ça m'aidera un petit peu à me distancier. Et j'ai regardé sur le bon coin, j'ai tapé bêtement forêt, chalet, bois, Bourgogne, voilà. Et je suis tout de suite tombé sur le chalet dans lequel je suis aujourd'hui. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, ben voilà, c'est ça, c'est là.
Ah, c'est ça, la clé est bien cachée. Hein.
Grande baie vitrée, transportée à travers la forêt, c'est ça ?
C'est ça, oui, exactement, oui. Donc je mérite d'en profiter tous les jours.
Voilà, je vais rentrer.
À partir de là, c'est comme si j'avais fabriqué incidemment une espèce de modeste centre de gravité de 60 mètres carrés, dans lequel j'allais me ressourcer tous les week-ends, bricoler, aménager, sans savoir au préalable, bien sûr, que j'allais y vivre.
Il y a tous vos outils, donc il y en a des choses. Hein. C'est bien rangé en tout cas.
Au fil de l'eau et au fil des aménagements, je suis venu faire un premier test et y vivre pendant un an. Alors sans travail du coup, sans rien, plus de relationnel immédiat, disponible à tout moment, plus de bruit, plus de moyens de transport, plus d'accessibilité immédiate aux loisirs, à l'électricité. À l'époque, je n'avais pas encore fabriqué ma salle de bain. J'étais encore obligé de me laver dans le lavabo.
C'est l'eau chaude.
Et je me suis définitivement installé ici en 2016. L'autonomie a été plus une contrainte au départ qu'un choix. Il est impossible de faire venir un réseau quelconque ici. Alors, je me suis débrouillé, j'ai rendu le chalet autonome. Et au final, curieusement, ma conscience écologique est plutôt née a posteriori. J'étais obligé de faire attention à l'eau que je consommais. Me chauffer avec le bois, ce n'était pas si évident. Il fallait faire attention aux ressources et les renouveler. Les courses que je faisais et que je ramenais à pied dans mon sac à dos, il valait mieux que je passe à l'essentiel pour ne pas me surcharger, etc. etc.
Combien vous dépensez, par exemple, en électricité, en eau et au quotidien ici ?
Dans l'immédiat, si je considère en termes instantanés, c'est-à-dire électricité, eau, ben zéro, en fait. Avec une installation électrique qui me suffit amplement à alimenter alors lumière, chaîne IFI, cafetière, etc., etc. Voilà, toute cette installation solaire m'a coûté 3000 euros. Au niveau de l'eau, j'ai investi environ 1500 euros. On peut dire que pour un couple, avec 4500 euros, ça vous permet de bénéficier d'une véritable autonomie et du coup d'avoir ensuite l'électricité et l'eau gratuite.
Depuis vos 2 ans à temps plein, est-ce que vous avez changé ?
J'ai changé, mais j'ai mécaniquement changé par rapport à l'environnement. Et comme cet environnement est paisible, je suis devenu paisible. Et du coup, en étant ici, on finit par s'habituer à faire attention à l'eau qui sort du robinet. On n'oublie plus d'éteindre l'interrupteur, on fait attention aux déchets, on fait attention à ce qu'on achète. Je ne sais pas si ces réflexes sont définitifs désormais, mais je pense que vraiment j'essaierai de les conserver.
Merci. À
Alors si l'histoire de Jean-Luc vous appâte mais vous fait un petit peu peur, n'hésitez pas à partir cet été un jour ou deux en bivouac, ça fait du bien, ou alors à vous inscrire à un stage de survivalisme.
La dernière fois que j'ai vécu dans un appartement, merci Léa Minot, et puis j'en profite pour rappeler que vous pouvez retrouver toutes les dernières fois que Léa vous a fait découvrir cet été, et bien plus encore sur la page Les Dernières Fois sur le site de France Inter. Pablo Servigne, on peut vivre dans une maison normale, entre guillemets, hein, mais normale, avec l'idée d'un effondrement à venir, c'est compatible ou alors on va plutôt vers l'habitat participatif, alternatif, léger?
Oui, c'est pas tellement la question de l'effondrement, mais quand on est un peu conscience du mal qu'on fait à l'environnement et à nous-mêmes avec tous ces matériaux, etc., on va forcément vers des matériaux plus écologiques, vers des maisons plus légères, etc. Moi, je suis admiratif aussi de ce mouvement qui est en pleine explosion des habitats légers.
Vous regardez avec insistance, et vous avez raison, Yvan Saint-Jour, qui va nous parler tout à l'heure d'Yggdrasil. Bonjour Yvan.
Bonjour.
Je vous fais venir maintenant dans l'émission parce que vous êtes un peu un pionnier de la tiny house, c'est-à-dire vous vivez notamment dans une tiny house d'ailleurs.
Ah ouais, alors là tout de suite je n'y vis plus, j'en reconstruis une autre là actuellement.
Ok.
Mais j'ai beaucoup vécu dans une tiny, ouais. Et j'ai effectivement...
C'est quoi en quelques mots?
Une minuscule maison, voilà. C'est-à-dire que c'est une vraie maison en bois, mais avec la différence des autres maisons, c'est qu'elle ne fait que 13 mètres carrés au sol.
Alors au sol, parce que j'avais vu et notamment participé à des reportages où on peut quand même arriver à optimiser l'espace, à faire plein de choses intelligentes à l'intérieur, et il y a des familles qui vivent dans des tiny houses.
Ouais, les familles, il y en a peu quand même, mais c'est vrai que ça existe. Il y a, en règle générale, dans les grandes tiny maintenant, il y a 13-14 mètres carrés au sol et on a deux mezzanines de 5 mètres carrés sur lesquelles on peut faire un couchage pour deux, et s'il y a deux petits-enfants, une chambre pour deux petits-enfants.
Et c'est monté sur essieu, ça peut se déplacer.
Ça peut se déplacer, ça peut rouler à 90 km/h quand on n'a pas froid aux yeux. Voilà.
C'est finalement tout ça, ça a l'air très très facile et pourtant c'est éloigné de la banalité, j'allais dire quelque part. Mais on va parler de cette collapsologie, Pablo Servigne, dans un instant. Vous en êtes un peu le porte-parole en France, on va dire les choses comme elles sont. C'est quand même vous qu'on appelle quand on a envie de parler de cette science finalement de l'effondrement. On va essayer de comprendre votre pensée, ce qu'elle peut impliquer jour après jour, juste après. L'épée sur France Inter.
Je sais pas pourquoi, non vraiment je ne sais rien, mais j'ai le sentiment que tu ne vas pas bien, à faire durer.
C'était Dreams avec l'épée sur France Inter. L'épée, c'est ce nouveau projet d'Emmanuel Seigné avec les Limignanas.
Êtes-vous libre demain ?
France Inter, des idées pour demain.
Entendu, à demain.
Valère Correa.
Et mon invité cette semaine est Pablo Servigne, chercheur inter. Alors terre, vous l'avez compris, c'est TE2RE dépendant, mais aussi et surtout ingénieur agronome, docteur en biologie, spécialisé sur le thème de l'effondrement. La thèse de la collapsologie, cette science de l'effondrement, Pablo Servigne, c'est quoi?
En deux minutes.
Même en une, si vous voulez. Prenez votre temps.
Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on a, avec Raphaël Stevens, on s'est employé à synthétiser un peu dans toutes les disciplines scientifiques, hein, que ce soit le climat, la biodiversité, enfin l'écologie, il y a l'économie, la politique, il y en a beaucoup qui parlent des effondrements qui ont déjà lieu, qui sont en train d'avoir lieu, qui vont avoir lieu.
Par exemple?
Ah bah les effondrements, par exemple de la bourse, le capitalisme crée structurellement des effondrements. Il y en a eu des dizaines tout au cours du XXe siècle. C'est quelque chose qui commence à être étudié. Il y en a eu un en 2007-2008. Puis il y a les effondrements de populations d'insectes en Europe, hein, moins 80% en 30 ans. Des populations d'oiseaux, des champs, la moitié des populations en France. Il y a des zones mortes dans la mer, des zones qui n'ont, il n'y a plus de vie. C'est dramatique. Donc, il y a des effondrements de flux climatiques, des effondrements le courant, par exemple, en ce moment-là, c'est incroyable ce qui se passe sur le climat. Le jet stream, le courant atmosphérique, là, qui est régulé un peu dans l'hémisphère nord.
Qui joue plus son rôle et qui, du coup.
Il joue plus son rôle. Donc, ça fait des grands froids aux États-Unis, des grandes canicules en Europe, etc. Donc on a réuni tous les indices, toutes les preuves de chaque discipline et on les a interconnectés, enfin on a essayé, on a travaillé de manière interdisciplinaire pour voir comment étaient connectés par exemple la finance et l'énergie, s'il n'y a plus de pétrole à un moment. Si à un moment on décide de laisser les énergies fossiles dans les sous-sols, toute la finance s'effondre. Les grandes majors de pétrole s'effondrent parce que leurs actifs sont déjà, enfin les réserves de sous-sol sont dans les lignes comptables des actifs des majors de pétrole. Donc ça veut dire que c'est toute l'industrie de l'énergie s'effondre. Ça veut dire que nos sociétés ne tiennent pas le coup.
Il y a cette interconnectivité entre donc les différents effondrements et puis dans la collapsologie, il y a aussi cette idée que ça pourrait devenir à un moment donné systémique, c'est-à-dire finalement voilà. Un gros bloc, boum, tout s'effondre.
Ouais, alors tout, mais pas tout d'un coup. Mais... Ouais, il y a une caricature, c'est qui est venu du titre. Comment tout peut s'effondrer, c'est un titre caricatural qui nous...
Que vous regrettez?
Ben, on regrette pas. C'est comme les titres, c'est toujours une autre fin du monde est possible. C'est un peu marrant, mais c'est caricatural. Mais nous, on a passé vraiment notre temps à complexifier, à amener des différentes nuances de gris. On parle de mosaïque d'effondrement pour dire que ça sera très différent suivant les régions, les peuples, les cultures.
Oui, il faut pas s'attendre à un jour particulier.
Non, on n'est pas dans un film apocalyptique hollywoodien, mais c'est une histoire de dégradation. Ponctuel, parfois catastrophique, parfois ça va peut-être aller un peu mieux dans certains endroits et puis replonger.
Mais quand on s'intéresse à tout ça, Pablo Servigne, on se rend compte que c'est tout à fait plausible. En plus, vous sourcez ça avec la science, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc du coup, ça fait quand même un choc. Et comment on fait pour aborder ce truc-là?
Ouais, c'est très long, ça met des mois, voire des années.
Et pour en faire quoi après?
Pour aller de l'avant et se mettre à agir et s'organiser, pour se préparer, pour construire un monde meilleur, pour limiter les dégâts, pour plein de choses. On a beaucoup
de
choses à faire.
Donc on baisse pas les bras, quoi. Il faut pas se dire, mais tout est foutu.
Ah non, surtout pas. Ça, c'est l'écueil, c'est le risque dans ce récit de l'effondrement, cette possibilité. L'effondrement, c'est à la fois des faits, des choses qui sont arrivées, et à la fois un récit. L'effondrement futur, c'est une mise en récit. Et ça fait peur. Et ça paralyse. Et le déni est tout à fait normal. D'ailleurs, il y a une biodiversité des dénis. Il y en a plein. On détaille dans le livre. Et puis, ça provoque du désespoir. Et puis, en fait, on retrouve les phases de la fin de vie ou du deuil. Vous savez, déni, peur, négociation, colère, tristesse et acceptation. Et quand on va vers l'acceptation, quand on a cheminé, moi ça fait 10 ans que je suis là-dedans, j'ai encore des sursauts de peur, de tristesse quand je vois mes enfants. Je suis papa de 2 enfants de 5 et 7 ans. Ça m'atteint au plus profond de
Donc tout en étant dans la collapsologie, vous avez quand même décidé de faire des enfants. Oui. Donc c'est que pour vous, il y a quand même un espoir et on peut aller vers...
Oui, et c'est ce que je disais, c'est que l'écueil, le risque, c'est qu'on arrive dans le tout est foutu. Ce qu'on appelle l'aquabonisme. À quoi bon finalement, allez, tout est foutu. Donc on a un devoir, et c'est ça la posture collapsologique, d'informer, de faire comprendre et de réouvrir les horizons de possibles. C'est hyper important de toujours stimuler l'imaginaire, l'imagination, et de pas dire tout est fou, de fermer tous les horizons. C'est vraiment très toxique. C'est insupportable d'un point de vue éthique.
Quel est votre regard sur toutes les solutions qu'on voit émerger? Les gens qui s'engagent, des entreprises s'engagent, des associations, des gens militent, font des marches. Il y a tout un tas de choses. Il y a un foisonnement quand même de gens qui essayent de, voilà, partout.
Ah ouais, non, partout.
Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens? Ou alors, encore une fois, c'est insuffisant,
Ça va dans le bon sens et c'est insuffisant. On est vraiment dans une société du « où », on en parlait avec Yvan tout à l'heure, c'est « où ça », mais c'est les deux. Par exemple, les marches climat, c'est des immenses succès, c'est des centaines de milliers de personnes, mais finalement, ce sont des échecs. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette pétition de 2 millions de personnes? C'est un succès et c'est un échec.
Là, vous parlez
c'est
de l'affaire deux. Du siècle.
L'affaire du siècle. Donc, c'est là ce qu'apporte Morin dans sa vision de la complexité, ce qu'elle appelle la dialogique. Ce sont à la fois des succès et des échecs. L'effondrement, ça sera à la fois graduel et brutal. Ça nous concerne, nous, ça concerne les autres peuples, ça concerne les animaux, les non-humains, remet tout en question. C'est pour ça que rapidement, c'est important de préciser. La collapsologie, c'est le logos, c'est comprendre. D'accord? Mais c'est pas la posture. Nous, on a proposé collapsosophie, la sagesse. C'est tout ce qui concerne l'éthique, les émotions, la psychologie, l'art, important, très important, ou les spiritualités, etc., pour apprendre à bien vivre avec,
et
traverser
y a aussi
ces tempêtes.
La collapsopraxie.
Et voilà, la praxis, c'est-à-dire
l'action.
L'action collective, évidemment. Donc, comment on s'organise? C'est une question absolument démesurée. On a ouvert le chantier, mais on est loin d'avoir les réponses.
On a besoin de faire sens, d'imaginer d'autres avenirs, d'autres manières de vivre, et même d'autres récits.
Yggdrasil, c'est créer du lien, un lien fort.
C'est la voix des arbres, c'est la voix du vivant, c'est l'arbre-monde de la mythologie nordique.
Attends Denis, là, c'est super beau, mais ça fait un peu bisounours, non ?
Pablo Servigne, vous n'êtes pas venu seul. Yvan Saint-Jour vous accompagne. On a dit un mot tout à l'heure ensemble sur les tiny house. Pourquoi Yvan Saint-Jour? Collapsopraxie, justement.
Ouais, ben moi, ce que je sais faire, c'est écrire et transmettre un peu de savoir. Et c'est ce que je voulais faire après avoir écrit des livres, c'est de partager cette aventure d'écriture en équipe. C'est d'abord Yvan qui m'a téléphoné. Et c'est un génie de la création des magazines. Et il fait, allez, on fait un magazine sur l'effondrement. Et c'est parti, moi, je suis ravi de pouvoir... Yggdrasil, c'est à la fois collapsologie, comprendre, sagesse, collapsosophie, vraiment sur le changement intérieur, et on ouvre le chantier de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ça va durer 3 ans, mais je te laisse la parole, Yvan.
Rebonjour alors, Yvan Saint-Jour. Donc vous êtes responsable de la publication de ce nouveau livre-magazine, on appelle ça un MOOC. Yggdrasil, donc Y2GDRASIL, on dit un petit mot peut-être sur ce nom.
Ouais, bah on a cherché un nom très très compliqué que personne ne pourrait retenir.
Non mais c'est joli par contre, c'est voilà. Facile à dire, franchement voilà. Ça passe
bon,
bien.
Mieux. Ouais. Et rapidement, Yggdrasil c'est l'arbre monde ou l'arbre cosmique qu'on retrouve dans toutes les cultures sur Terre. Mais celui-là, cet Yggdrasil, c'est l'arbre de la mythologie nordique. Celui dans lequel Odin a été attaché par les pieds pendant 7 ou 9 jours et 9 nuits. Mais bon, c'est de la mythologie, donc c'est pas grave si c'est 7 ou 9. Voilà, donc c'est un symbole très fort pour nous. Voilà, on avait le choix entre différents titres. C'est vraiment celui-là qui nous est apparu pour faire ce magazine.
Cohérent avec ce projet qui est quand même... dans l'histoire, enfin Pablo commençait à le dire, c'est quand même le dernier magazine avant la fin du monde, hein, au passage. C'est quand même ça, n'est-ce pas? Et il a une durée de vie qui est déterminée, c'est 3 ans.
Voilà, c'est-à-dire que, ouais, bah oui. On s'est dit, tant qu'à faire, autant partir du principe que ce magazine serait aussi vu comme un organisme vivant. Il naît, donc il est né fin juin de cette année, et il mourra, donc on lui a déjà prévu sa mort en 2022, après 12 numéros.
Donc on peut le trouver là partout, enfin il est dans les kiosques, etc. Qu'est-ce qu'on y lit? C'est quoi un magazine sur l'effondrement?
Déjà c'est un magazine, je pense, ce qu'on a voulu faire, c'est un magazine très beau. Quelque chose qui donne vraiment envie de se plonger dans cet univers. Notre objectif, c'est de ne pas renier cette partie énorme qu'est l'effondrement, donc pas de déni, on y va franco. Et ensuite, on attaque un peu sur tous les fronts, tout ce qui est possible, puisqu'au final, la seule différence qu'il y aurait avec n'importe quel autre magazine, c'est que on regarde tout par le prisme de l'effondrement, et donc du renouveau, de la renaissance, de la résilience, etc.
Donc là, on est dans la collapsopraxie, c'est l'action, ça accompagne aussi la transition, la prise de conscience.
Oui, oui, oui. Alors à l'intérieur, il y a aussi de la collapsosophie et quand même de la collapsologie.
C'est ça. Yvan Saint-Jour, donc vous êtes le directeur de la publication donc de ce dernier magazine avant la fin du monde. C'est le premier numéro, c'est Yggdrasil. On le retrouve dans les kiosques et un peu partout. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation de Pablo Servigne.
Merci.
Pablo Servigne, cette idée d'effondrement, franchement, elle perturbe. Il faut en faire un truc hein, si on l'intègre. Il faut quand même la mettre dans notre vie de tous les jours. Moi, j'aimerais bien justement savoir comment vous vivez avec tous les jours. J'espère que vous allez vous confier. Ce sera après Kofi sur France Inter.
On the street, tank top in the heat. Jeans, pants and Crocs, no socks left on me feet. Knapsack with me a beat, well pack up on the need. Stay woke, no sleep, me no little bow keep. Money for me mind, but me never have a kind. Now cause me does a hustle for the pretty dollar sign. I never no fun time, life rough sometime. But me know me and me mommy happy, see the sunshine, that's why me
come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It a burn like a tire, me have a burning sun. And if me try for retire, me leave them yearning. None can out my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil no like it himself, he turn it down. So me just give him the fire and make it burning.
What become a Peter? Mommy say be doctor, granny say be preacher. Muffy be a rasta, daddy say be neater. Peter never like that, so him take the streets up. Everybody born with the talent to fi feature. Blessings in abundance, so we fi cherish each other. Never be ungrateful, life is such a teacher. Buffy pan up, set a track, see me bring the heat, yeah.
Come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It a burn like a tire, me have a burning sun. And if me try for retire, me leave them yearning. None can out my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil no like it himself, he turn it down. So me just give him the fire and make it burn.
He run up and down, have them a run up and down. Yeah, coffee with the dance sound. Anytime he come round, a madness funny compound. Man a ton, fool a ton, clown. But Jaja cover my journey, I beg you guide it. And any trouble me see, help me avoid it. Me no say anything, me nigga will provide it. Anyway, still what a time, lead me beside it.
Come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It a burn like a tire, me have a burning sun. And if me try for retire, me leave them yearning. None can out my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame.
Kofi avec le titre Burning sur France Inter.
Des idées pour demain.
Demain tout ira mieux.
Valère Correa sur France Inter.
Et mon invité cette semaine est Pablo Servigne, chercheur interdépendant, ingénieur agronome, docteur en biologie, spécialisé sur le thème de l'effondrement. Alors, l'industrie textile, Pablo Servigne, serait la deuxième la plus polluante au monde, rien que ça. Puisqu'on va parler de vos habitudes à vous, un peu de votre quotidien, on va voir ce que vous acceptez de nous dire ou pas. Je vous pose la question tout de suite, vous faites vos courses où Zara, H&M, CNA
Moi, c'est affreux pour m'habiller. Ouais. Je suis plutôt en mode rat de bibliothèque. Donc, quand je sors une fois à la ville pour faire les magasins. Je suis accompagné. Non, c'est horrible pour moi de faire les magasins. Donc, un peu de deuxième main, tout ce que je trouve. Et puis,
s'habiller, c'est pas le gros sujet.
Non, j'ai pas beaucoup d'affaires.
Bon, en tout cas, je disais, l'industrie textile et particulièrement la fast fashion font clairement des ravages sur l'environnement et sur les humains, parce que il faut se rappeler quand même que c'est souvent fabriqué dans des conditions assez hallucinantes. C'est pas pour rien qu'il y a écrit Made in très loin sur les étiquettes. Mais il y a quand même des alternatives qui se dessinent. Il y a une mode qui se bouge. Et puis, il y a la seconde main. Ça devient un truc absolument énorme. On va en parler donc avec Camille Dufetel. Vous êtes rédactrice en chef de l'infodurable.fr. Bonjour Camille.
Bonjour Valère.
Aujourd'hui est le temps des miracles. un gracieux balai qu'on pourra nommer le balai de l'inusable, a présenté au Palais de Glace une invention d'usage modeste, mais de retentissement mondial. L'apprêt qui rend l'étoffe pratiquement inusable. Le tissu normal ne résiste pas à 2100 frottements. Trempé dans ce liquide magique, ce tissu résiste maintenant à 50 000 frictions. Une révolution dans le textile.
Voilà, vous l'aurez compris ou pas, aujourd'hui en tout cas on va parler mode éthique. Hein.
Eh bien oui, une petite chronique mode aujourd'hui, parce que même si on ne va pas forcément sauver la planète en s'habillant de manière plus durable, on est quand même face à l'une des industries les plus polluantes au monde effectivement, et on ne peut pas non plus rester les bras croisés face à cela. On n'a pas toujours porté des t-shirts à moins de 10 euros fabriqués au Bangladesh, on n'a pas toujours passé nos samedis après-midi dans des grandes chaînes de fast fashion à faire la file pour essayer une robe ou une chemise à 29,90 €, hein, qui en 2 mois sera déjà troué ou abîmé. On n'a pas toujours eu le luxe de porter uniquement 30% de notre garde-robe. À votre avis, Valère, où ma grand-mère Solange allait-elle dégoter les vêtements de ses 4 enfants dans les années 60?
Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais je suis certain que c'était pas dans les enseignes de la fast fashion qu'on évoquait
non.
tout à l'heure.
C'est certain. Ma grand-mère achetait du tissu et elle faisait faire certains vêtements par une couturière. La lingerie était faite sur mesure également. En fait, il n'y avait que les vêtements ordinaires de tous les jours qui étaient achetés dans des petites boutiques ou chez des marchands ambulants. Bon, après, il y avait aussi, en fait, la vente sur catalogue avec la Redoute et les 3-6, hein, par exemple. Mais globalement, les pulls étaient tricotés à la main, tout comme les chaussettes et les brassières de bébé. Ce que m'a dit là-dessus ma tante Danielle, c'est qu'elle et ses frères et sœurs étaient toujours très bien habillés. Et pourtant, on était loin de l'ère actuelle, hein, où on ne sait plus donner de la tête, où donner de la tête tellement on a le choix en termes de couleurs, de coupes, de marques, de budget et évidemment de tendances.
Oui, c'est vrai qu'on a un choix qui est fou. D'ailleurs, on parle de plusieurs, il y a même plus de saisons en fait. Il y a des collections quasiment toutes les semaines, je crois. Et c'est forcément juste un modèle absolument intenable qui finira d'ailleurs peut-être par s'effondrer.
La mode, comme vous le savez, c'est un éternel recommencement. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on aime bien recommencer un peu trop souvent. On rachète, c'est sans fin. Résultat, comme je vous le disais, non seulement la mode aujourd'hui c'est l'une des plus importantes sources de pollution mondiale, mais il y a aussi la question de l'eau. En moyenne, un jean classique va se fabriquer avec 7000 à 10 000 litres d'eau. Et puis ce jean, bien souvent, on va le fabriquer avec du coton cultivé par exemple en Inde, qui sera teint dans un autre pays et renvoyé en Asie pour sa confection, puis renvoyé en France et ailleurs pour être vendu. Donc c'est peu de dire que ce simple vêtement va avoir à chaque étape de sa confection de lourds impacts environnementaux, mais aussi sociaux, car on ne parle même pas des conditions de travail parfois très dures des ouvriers qui les confectionnent.
Et puis de leur âge aussi. Et on revient quand même un peu de tout ça. Enfin, en tout cas, ça y est, les choses commencent à bouger, des alternatives se dessinent.
Évidemment, quand je dis tout ça, déjà je précise qu'il y a aussi des marques qui font les choses bien, et heureusement. Aujourd'hui, s'habiller de manière plus responsable et éthique, ça parle de plus en plus. Et puis, ça consiste en fait à acheter d'abord moins et ensuite mieux. Alors, pour le moins, c'est clair, hein, il suffit de regarder tout ce que l'on a déjà dans son placard avant de céder à un achat impulsif et puis de se dire, en ai-je vraiment besoin ? C'est bien de penser à la réparation aussi. Et pour le mieux, quand on a pour le coup vraiment besoin et envie d'un nouveau vêtement, il y a bien sûr les enseignes de seconde main, hein, comme les friperies, ou certaines plateformes en ligne comme Vinted, hein, qui cartonnent en ce moment, Vide Dressing et aussi Vestiaire Collective, par exemple. Ça permet de faire marcher l'économie circulaire.
Et il y a aussi du neuf, où là, ça commence un peu à faire sens aussi, à se bouger.
Voilà, il y a des marques qui s'engagent à utiliser des matières moins polluantes et qui respectent une certaine éthique. Hein, pour les retrouver, direction par exemple, le carnet d'adresse de slowyear.com.
Voilà, ou encore le site linfodurable.fr avec plein de bons plans. Merci beaucoup, Camille. Pablo Servigne, on arrive à vivre à peu près normalement avec cette idée que tout va s'effondrer?
Non, c'est difficile. Mais bon, le problème, c'est que ça rend fou d'y penser et ça rend fou de pas y penser.
Mais vous êtes quand même terrible parce que c'est vous qui mettez cette graine à force d'aller dans les médias, d'écrire des livres qui en plus marchent, de créer des magazines. Et vous vous rendez quand même compte que vous perturbez plein de gens. Alors il va falloir nous donner un peu des solutions.
C'est la civilisation qui perturbe le monde. Moi, j'essaye de prévenir un petit peu. Non, mais le monde est complètement fou. Regardez. Pour les habits, par exemple, pourquoi on fait pas comme Nance et Moot dans Nu et culotté, l'émission où ils partent à poil? Et voyage. D'ailleurs, Nance, qui est écrit dans Yggdrasil, un magnifique article sur son nouveau film « Et je choisis de vivre », qui est trait du deuil, la question du deuil et de la mort, qui est absolument à traiter dans nos sociétés. Non, pour dire que tout ça rend fou et que c'est bien d'être ensemble dans cette petite folie ordinaire à essayer de se débrouiller pour les tempêtes à venir, pour pas couler, quoi.
Il va falloir être un peu inspirant parce que là, on est un peu nombreux à écouter et en ce moment-là, à écouter des idées pour demain. Alors, Pablo Servigne, vous, il ressemble à quoi à votre quotidien en sachant que tout va s'effondrer, donc, ou presque?
Et moi, mon quotidien, j'ai choisi de passer mon temps à informer un maximum de gens. Donc là, je suis pris dans ce paradoxe affreux qu'on est. On est allé en famille dans le sauvage. Donc j'étais en ville. On habitait à Bruxelles et on a décidé, avec la naissance du deuxième enfant, d'aller à la campagne, de se perdre en moyenne montagne, dans les Alpes. Et en plus, dans un habitat léger, c'est intéressant qu'on parle d'habitat léger parce que ça nous a fait toucher.
C'est quoi un habitat léger alors?
Alors il y en a plein. En fait, tiny house, il y a les carters, il y a les cabanes, il y a les yourtes. Et nous, on a choisi une yourte depuis 3 ans là. Et on est vraiment, on sent la vulnérabilité. C'est très étonnant parce qu'on entend tout, les oiseaux, la forêt. Il n'y a pas d'isolation phonique avec une yourte. Donc c'est dès qu'il y a de la pluie, on l'entend. Dès qu'il y a du vent, il y a tout qui bouge. Et ça. Je trouve que ça apporte beaucoup d'humilité.
Et vos enfants, 5-7 ans, vous disiez tout à l'heure, c'est ça, ils ont 5 et 7
ouais,
ans.
Alors pour eux, c'est ça qu'on voulait. On voulait retrouver le sauvage, donc la proximité avec la forêt, les ruisseaux et tout, pour qu'ils vivent leur petite enfance là-dedans. Et on observe qu'ils se déploient, c'est assez beau à voir. Et ils nous apprennent beaucoup, en fait, parce que moi, j'ai été déformé par 35 ans de ville. Et ça me fait du bien à travers eux, ouais.
Ça, c'est déjà, c'est quand même assez radical de vivre comme ça dans un habitat léger avec votre famille, etc. Vous faites quoi d'autre?
On a vécu 2 ans dans un éco-village avant ça. On a essayé plein de choses pour tester le collectif aussi.
Vous vous déplacez comment? Vous mangez
alors,
quoi?
Alors voilà, c'est ça le paradoxe affreux, c'est que du coup, je suis invité partout, aux quatre coins de France et de Navarre pour faire des conférences depuis une petite dizaine d'années. Donc, je me retrouve, alors je prends pas l'avion, mais du coup, le TGV, ouais, je me retrouve comme un couillon à 300 km/h à faire des PowerPoint sur l'Anthropocène.
Alors l'Anthropocène, un mot,
sur l'Anthropocène, c'est la nouvelle époque géologique dans laquelle nous sommes entrés.
Impacté par l'humain.
On a fini avec l'Holocène, qui était une période de 10 000 ans d'incroyable stabilité climatique qui a permis l'invention, l'émergence de l'agriculture et des civilisations grâce à cette période de stabilité climatique. Là, on est sorti des limites. On est comme une voiture qui... Alors, elle se prend pas un mur. Hein. Dans votre intro, vous disiez que on va se prendre un mur. C'est pas du tout. Il y a pas de mur. En fait,
la
on
voiture,
est juste sorti
de la route.
C'est la
métaphore que vous utilisez dans votre livre « Comment tout va s'effondrer ».
On est sorti de la route et là, on dévale la pente sur le bas-côté, dans le brouillard, avec plein d'obstacles et on appuie le pied au plancher sur l'accélérateur.
Il y a quand même quelques obstacles. Vous en avez une, de voiture, vous?
Oui. J'en ai deux et du coup, mais à la montagne, c'est la colonne vertébrale de la vie, malheureusement. Et j'ai découvert, par contre, en montagne, l'entraide. C'est très intéressant parce que quand on arrive dans les milieux plus difficiles, plus hostiles, tout de suite, les voisins nous aident et on sort de l'anonymat des villes, dans les petits villages. Tout se sait très vite et l'entraide est beaucoup plus puissante. Ça, je l'ai vécu profondément. C'était très fort, le voisinage.
L'entraide qui est d'ailleurs la colonne vertébrale aussi, on va dire, sinon de la solution, mais en tout cas d'une piste de transition face à un ou des effondrements, vous le mettez en avant.
Absolument.
Notamment dans le tout dernier, l'entraide, l'autre loi de la jungle.
Ouais, notre livre sur l'entraide, c'est une synthèse sur toutes les manières qu'ont tous les êtres vivants de s'entraider, champignons, bactéries, plantes, animaux, humains, tout ça. Et c'est incroyable, ça nous fait un bien fou de se rendre compte de ça. La science a découvert depuis un siècle et demi des inventions, des découvertes géniales et ça fissure notre imaginaire de la loi de la jungle, de la loi du plus fort et ça nous ouvre des perspectives. Mais du coup, je suis sûr que je suis pas le seul, il doit y avoir beaucoup d'auditeurs et peut-être même vous à être dans ce paradoxe entre j'essaie de consommer moins, j'essaie de la sobriété, mais en même temps je suis pris dans des dynamiques, dans le TGV, voilà, j'ai un ordi, j'ai un Mac, j'ai un désir de retrouver le sauvage. Et toute mon activité m'ancre, me cloue à mon Mac. Et donc, j'écris sur le sauvage derrière un ordi. C'est complètement absurde. Et d'ailleurs, avec Yggdrasil, on a commencé une campagne de Kiss Kiss Bang Bang, de financement participatif qui a marché
plus du tonnerre. 3 000 contributeurs.
C'était magnifique. Mm-hmm. Tout ça, c'est des réseaux sociaux, du Facebook, du machin, du Twitter. Et l'objectif, vraiment, ce qui me tiendrait à cœur avec Yvan, c'est qu'on a commencé dans l'hubris, dans le foisonnement, dans le virtuel, et qu'on se donne 3 ans pour se débrancher de tous les réseaux sociaux, de tout. Et dans 3 ans, quand Yggdrasil mourra, on sera dans le sauvage.
Et vous reviendrez peut-être une dernière fois nous dire un mot avant de définitivement couper. Une dernière question que je pose à tous mes invités. Est-ce que ce qu'on appelle les petits gestes, la théorie du colibri, vous savez, avec maintenant de plus en plus de gens, des millions de personnes qui amorcent leur transition, est-ce que, notamment pour un collapsologue, c'est vraiment utile?
Oui, mais c'est pas assez. C'est utile parce que ça nous met en mouvement. C'est des petits gestes qui deviennent des moyens et peut-être des grands. Mais c'est pas assez. Et on est, encore une fois, c'est pas où. On n'est pas dans le colibri ou la lutte collective, c'est les deux. Il faut évidemment des gestes au quotidien et des luttes collectives. On en aura besoin et ça sera difficile. Il faut vraiment serrer les coudes. L'entraide, ça sera un facteur clé pour ne pas sombrer dans les tempêtes à venir.
Pablo Servigne, un grand merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler ce matin. C'était passionnant. Comment tout peut s'effondrer? Une autre fin du monde est possible. L'entraide, l'autre loi de la jungle. On vous met toutes les références sur la page de l'émission Des idées pour demain. Pour réécouter Des idées pour demain, c'est sur franceinter.fr ou avec l'appli France Inter. Cette émission était réalisée par Jérôme Boulet, préparée par Antoine Vandeville, à la technique Ronan Mahé et à la programmation musicale Djoubaka. Et comme c'était la dernière de cette saison estivale, j'en profite pour remercier toutes les équipes d'Inter avec une bise affectueuse et appuyée à Jérôme et Antoine, mais aussi Léa Minot et Camille Dufetel. Bien sûr, une pensée particulière pour Laurence Bloch et Yann Chouquet pour leur confiance renouvelée. Et enfin, une recommandation, soyez au rendez-vous ce lundi 26 août pour la première de ce qui sera sans doute le rendez-vous radio de la transition à la rentrée, 13h30 sur Inter avec Mathieu Vidard pour La Terre au Carré. Salut !